Peut-être pour commencer aujourd'hui, on parlait de la double nationalité, mais justement ce matin, c'était frappant parce que ben, je lis différents journaux. Donc ce matin, je me lève et je regarde le journal québécois et je vois le Québec en tête d'épisode numéro un. Je suis très fier. Après ça, je vais voir le journal belge et les Belges, PISA, encore une baisse pour la Belgique, ça régresse encore. Voilà. Donc, on est un peu pris dans les deux systèmes. Donc, des fois, on est content et parfois, on est déçu. Donc, il y a des avantages. Ben, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ben, je vais commencer par la slide que je mettais en dernier. Elle est aussi en dernier, mais on va commencer par celle-ci. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. L'inclusion, c'est un changement de paradigme. Le co-enseignement, c'en est un aussi. Peut-être on va dire, c'est quoi, en deux mots, un paradigme? Un paradigme, c'est un ensemble de valeurs, de croyances, de savoirs qui influencent les pratiques, les manières de voir le monde, les manières de concevoir les personnes ou le monde qui nous entoure. Pour l'instant, on vit dans un paradigme capitaliste, mais il y a des valeurs liées au paradigme capitaliste. En Union soviétique, mais ils étaient dans un paradigme communiste. Ils avaient des valeurs et des pratiques et des façons de voir le monde différentes. Hein, je prends deux exemples un peu typés. Et pour le dire aussi, bon, quand je prends le mot paradigme, voilà, ça fait universitaire, puis c'est beau. C'est une autre façon de dire, mais ce que je vais vous parler un peu, c'est de la révolution aujourd'hui. Parce que si on passe une école inclusive, mais c'est une école qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on a connu. Et donc, comment on fait ça, cette révolution-là? Comment on passe à une école ordinaire, à une école inclusive? Hein, ce n'est pas seulement mettre une étiquette, ce n'est pas faire une loi en disant que l'école est inclusive. Je vais dans des systèmes scolaires, maintenant, dans une école inclusive, qu'est-ce que ça change? Ah, maintenant, j'ai Kevin. Ben, c'est pas ça une école inclusive. Ça, c'est une école peut-être intégrative, mais c'est pas parce que tu as un élève à besoin spécifique. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis comme avant. Ben, c'est peut-être pas ça non plus l'école inclusive. Donc, on va un peu réfléchir à ça et comment transformer l'école vers quelque chose de plus inclusif. Ben, si on veut changer de paradigme, il y a quatre grands critères. Ben, d'abord, il faut avoir une insatisfaction. Ben, si les gens ne sont pas insatisfaits du système actuel, ils ne vont pas le changer. Hein? Le système convient aussi actuellement à certains public et ne convient pas aux autres. On sait très bien que par rapport à l'inclusion scolaire, mais le système actuel ou d'avant, si on veut, convenait pas aux élèves à besoins spécifiques, mais pouvait convenir à une certaine élite, un 10%, qui pouvait bien se plaire dans ce système-là aussi, qui est un peu méritocratique et hiérarchisé. Mais donc, il faut avoir une insatisfaction. L'insatisfaction, bien, elle a mené peut-être à la loi de 2005 et à d'autres conceptions, mais l'inclusion aussi crée d'autres insatisfactions, on le verra aussi. Il faut avoir une conception alternative clairement définie. Ça va être un peu le but d'aujourd'hui, de ma présentation. Il faut voir que c'est praticable. Ben, ça sera aussi le but. Je vais vous montrer des exemples concrets de différents endroits où ça peut être pratiqué. Puis aussi, ce qui est plus intéressant dans le co-enseignement, c'est le caractère fécond de cette conception-là. Le co-enseignement, ce que j'en sais aujourd'hui, c'est ridiculement peu faible par rapport à ce que je vais en savoir dans 20 ans. Parce que c'est assez nouveau. On découvre encore tous les jours. Je suis dans les écoles très souvent toutes les semaines et je vois encore des choses. Ah, ouais, ah, ben tiens, ah, ben si. Parce que, par exemple, ben, dans le co-enseignement, les deux profs se parlent, par exemple. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, ben là, je commence à dire, ah, ben ils font des régulations sur quoi? Mais sur la matière, des régulations sur la pédagogie, des régulations sur le temps, des régulations sur les. Et là, je commence à travailler sur l'idée de régulation. Là, ben, ça n'existait pas, ça, il y a quelques années. Donc, à force de travailler dans mes recherches, mais des nouveaux champs, des nouvelles thématiques vont apparaître. Peut-être se mettre en contexte rapidement, ben, première chose, ben oui, je suis belgo-québécois, mais je connais un petit peu le système français, le système scolaire français. J'ai parfois des difficultés avec les premières, deuxièmes, terminales et tout ça, mais ça va. Il y a énormément de sigles. Ce matin, j'ai reçu aussi de l'INSHEA les sigles liés au handicap. Il y avait, je pense, 30 pages de sigles. Vous êtes très fort là-dessus, c'est exceptionnel, bravo. En même temps, quand on dit sigle, généralement, on dit dispositif. Et quand on dit dispositif, quand il y a 30 pages, ça veut dire qu'il y a une multiplication de dispositifs. On en parlera aussi. Le co-enseignement, c'est une fusion de dispositifs, jusqu'à un certain sens. Donc, multiplier de dispositifs. L'éducation, ce qui est particulier en France, c'est la séparation entre éducation nationale et milieu spécialisé, qui existe de moins en moins, mais elle existe encore. Je travaille avec un IME à Cahors, mais l'IME est vraiment IME, puis l'éducation nationale est à côté, puis voilà, il y a des enseignants à l'IME, mais des statuts un peu différents, alors qu'en Belgique et en France, tout le monde est à l'éducation nationale, en fait. Les enseignants spécialisés ordinaires, il n'y a pas cette dualité-là. Donc, il y a une particularité ici. En même temps, on sait qu'on est en réforme, elle est faite maintenant, mais la réforme de la formation des enseignants spécialisés. Et quand on regarde les annexes de cette réforme-là au niveau des compétences, la plupart des compétences, une majorité de compétences, parlent de collaboration, co-enseignement, co-intervention. Donc, visiblement, les nouveaux enseignants spécialisés vont devoir développer des compétences nouvelles qui sont des compétences collaboratives, qui n'existent pas. On n'est pas formé à ça comme enseignant, à collaborer. On est formé à enseigner, à évaluer, mais on n'est pas nécessairement formé à collaborer. Et donc, on forme des collaborateurs, pas pris dans le sens de la Deuxième Guerre mondiale, mais pris dans un sens plus moderne. Voilà. C'est parfois compliqué le terme collaboration en France. Un changement de paradigme, mais peut-être mettre un élément quand même important, et c'est pas parce qu'il n'y a pas ça que ça ne fonctionnera pas, mais ça aide. C'est l'approche non catégorielle. Que ce soit au niveau, on va dire, légal ou au niveau des enseignants, une approche non catégorielle, globalement, mais que ce soit en Belgique, une approche très catégorielle, au Québec, une approche moins catégorielle, mais c'est se dire, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin des troubles et des handicaps à l'école pour définir cette population-là? Est-ce qu'on a besoin des concepts importés de la psychologie et de la médecine pour apprendre à lire, écrire et compter? C'est la première chose, parce que finalement, l'école inclusive, qu'est-ce qu'elle propose, sinon qu'une pédagogisation de la scolarisation de ces élèves-là? En IME, ils ne sont pas toujours scolarisés, ou pas de la même manière ici, mais on veut vraiment. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, ou j'ai plus besoin de savoir il est où son juste niveau de développement en lecture à tel ou tel élève? Et en même temps, mais si on me dit que Kevin, il est troublé, je suis incompétent. Je ne suis pas spécialiste des troubles. Si on me dit que Kevin, il a des difficultés en lecture, je deviens tout de suite très compétent. Et c'est le même élève. On pourrait se poser aussi la question, est-ce qu'il existe des pratiques efficaces qui fonctionneraient pour les dyslexiques et qui ne fonctionneraient pas pour les élèves en difficulté de lecture? Vous connaissez des pratiques qui fonctionnent pour un, mais qui ne fonctionneraient pas pour l'autre? Bon, c'est peut-être à quoi ça sert finalement de mettre une étiquette. On peut aussi se poser la question, tu as une étiquette, je te donne l'aspirine, tu n'as pas d'étiquette, je te donne quand même de l'aspirine. Ah, peut-être que toi, vu que tu n'en as pas, je ne te donnerai rien. Parce que donc, souvent, l'étiquette permet d'avoir des ressources, mais parfois est un frein. Je vais juste donner finalement le service à ceux qui sont bien diagnostiqués et ceux qui sont dans la marge, ceux qui sont gris, ceux qui lisent mal parce qu'ils sont immigrants, ceux qui lisent mal parce qu'ils viennent de milieux défavorisés, ils auront peut-être pas les mêmes ressources par rapport aux dyslexiques médicales. Donc, ça pose aussi des questions sur les services qu'on va donner et à qui on va les donner aussi. C'est se centrer sur les besoins de l'élève et sur le niveau de soutien plutôt que sur une pathologie en tant que telle. Ce qui nous intéresse, c'est la nature des difficultés plutôt que leur origine. C'est pas que c'est inintéressant, mais pour le pédagogue, c'est quoi la nature? C'est-à-dire, quelles sont ses difficultés? C'est quoi son niveau de développement? Un élève dyslexique d'un à l'autre, c'est très différent. Dylan, Kevin, Mohamed, ils sont tous les trois dyslexiques, ils ont tous les trois des problèmes différents. Un inverse, l'autre n'est pas fluide, puis l'autre ne fait pas d'inférence. C'est des approches qui vont être un peu différentes aussi lors de mon intervention. Donc, si je mets une étiquette et que je plaque des pratiques générales sur des contextes généraux, finalement, j'oublie l'élève, j'oublie l'enfant. Et je pense qu'à la maladie, qu'au trouble, qu'au handicap. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une approche diagnostique ou dans une approche d'identification. Ça veut dire, oui, je vais donner des services, mais je donne à qui? Bien, aux élèves qui ont peut-être des difficultés. Mais quand j'ai une difficulté, bien, je ne suis pas étiqueté, en quelque sorte. Je reçois des services, ça me permet d'avoir un service. Ça permet aussi de réfléchir à l'intervention précoce. Une bonne dyslexie se diagnostique en moyenne autour de 9 ans. Bien, quand j'interviens à 9 ans pour un élève dyslexique, on sait bien qu'on va essayer le redoublement. Donc, on va peut-être intervenir à 10 ans. Bien, en Belgique, c'était le cas. La moyenne d'intervention, c'est 9 ans et demi. Et la maternelle commence à 2 ans et demi. Donc, ça fait 7 ans qu'on ne fait rien. On attend. On n'a pas de ressources. Oui, l'enseignant fait ce qu'il peut, mais une délégation. C'est peut-être intéressant, et on sait ce qui fonctionne, c'est l'intervention précoce. Et maintenant, c'est ce que j'ai vu maintenant dans mes classes, c'est pas juste l'intervention précoce, c'est l'intervention rapide. C'est pas intervenir seulement quand ils sont jeunes, c'est intervenir pendant l'apprentissage, pendant que le métal est encore chaud, pendant que le fer est en fusion, plutôt qu'être toujours dans des remédiations, toujours dans de la postvention, toujours dans de l'après. Donc, si on veut passer une école inclusive et qu'on garde les concepts du spécialisé, l'élève est en difficulté, il est bien diagnostiqué, il est bien identifié, donc je peux le traiter, bien, c'est peut-être trop tard. Pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais c'est peut-être un peu tard. Alors que si je peux intervenir beaucoup plus tôt et lors des apprentissages, bien, c'est peut-être un peu plus payant et peut-être un peu plus intéressant aussi. et avoir une approche qui s'intéresse aussi au développement de l'enfant, au développement, oui, général, mais au développement de l'acquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul aussi. Ça peut être intéressant, ça permet de cibler mon intervention aussi. Et donc, il y a un passage aussi avec l'approche non catégorielle, mais du 5 % d'élèves à besoins spécifiques diagnostiqués aux 20 % d'élèves qui ont des difficultés à l'école. C'est-à-dire, on touche une population beaucoup plus grande qu'avant. Et généralement, dans les pays qui ont fait une réforme inclusive, ça s'associe avec une abolition ou une restriction très forte du redoublement. Je ne peux pas dire à un élève qui a une trisomie, « Bien, toi, tu peux passer en deuxième primaire », et dire à un élève qui est juste mauvais à l'école, « Bien, toi, tu vas rester en première ». Ça n'a pas de sens. Hein? J'aurais tout intérêt à avoir un handicap pour pouvoir réussir, finalement. Hein? Donc, c'est sûr que bien, si je touche le 20 % bien, je touche des doubleurs. Des élèves qui auraient dû doubler. Des élèves qui auraient peut-être été en IME dans 3 ans, mais je l'ai touché plus tôt, je l'ai touché maintenant pendant qu'ils sont en difficulté. Donc, c'est aussi une autre façon de faire. Puis, on se posera aussi la question, oui, on parle du 20 % mais on va aussi penser aux 80 % parce que faire une école inclusive au détriment des autres, c'est pas une école inclusive. Donc, est-ce qu'on peut avoir une école ou des dispositifs inclusifs qui favorisent l'apprentissage de tous et chacun? Et pas seulement les élèves qui sont intégrés. Si je prends une AVS ou une AESH, est-ce que je la colle à côté de mademoiselle? Bien, elle ne sert qu'à mademoiselle. Si on travaille ensemble, pour tout le groupe, dont pour mademoiselle, bien, William, Joseph et Jérémy s'intéressent aussi à l'inclusion, ils voient aussi un avantage. Donc, dans ce passage à l'approche non catégorielle, pour l'instant, on est un peu au niveau 2, hein, où on parle du... Bien, on parle de l'élève handicapé troublé vers l'élève en difficulté, hein, qui a des besoins spécifiques, des besoins particuliers, ainsi de suite. On est pas mal dans ce passage-là actuel. Moi, ce que je propose à mes étudiants, bien, c'est de passer de l'élève en difficulté aux difficultés des élèves. Parce que là, bien, dans une classe, tout le monde a des difficultés. Et si je suis spécialiste des difficultés, je ne suis pas spécialiste de Kevin, je suis spécialiste de toutes les difficultés, et tous les élèves peuvent en avoir. En fait, c'est assez simple d'avoir des difficultés à l'école, il faut juste mettre les élèves en difficulté. Hein, un élève surdoué, je peux le mettre en difficulté très facilement, j'ai juste à alourdir sa tâche. Il va être en difficulté, puis il va lever sa main en disant « je comprends pas ». Bien, il aura une tâche peut-être dans sa zone proximale de développement, lui aussi. Hein, faut penser aussi à ces élèves-là. Puis maintenant, bien, moi, je suis en train de penser en disant « mais c'est finalement peut-être pas les élèves qui ont des difficultés, c'est peut-être les enseignants qui ont des difficultés ». Et si on passe à une école inclusive, bien, c'est peut-être pas l'élève qu'il faut aider, c'est l'enseignant ou l'enseignement qu'il faut bonifier, qualifier, rendre plus accessible, rendre plus flexible. Et souvent, je prends l'exemple, je ne sais pas si c'est les mêmes chiffres au Québec, mais j'ai l'impression qu'en France, ça commence à devenir la même chose. Nous, pas pour la première affirmation, nous, la maladie du système scolaire québécois, c'est le décrochage scolaire, surtout chez les garçons. Il y a 22 % des garçons qui ont décroché à 16 ans. C'est notre problème. L'avantage des enquêtes PISA, elles sont faites à 15 ans. Donc, c'est super, hein? Ils le feraient un an plus tard, on en perdrait pas mal. Donc, en fait, on a 22 % de nos garçons, ou 15 % garçons-filles mélangés, qui décrochent après 10 ans d'école. Par contre, chez les enseignants, 50 % décrochent après 5 ans d'enseignement. Bien, qui a des problèmes? Les élèves qui sont forcés d'être là, ou les enseignants qu'on paye après avoir formé et qui, quand même, après 5 ans, décrochent quand même de l'école? Mais il y a peut-être cette vision-là, et comme on disait tantôt, mais je suis enseignant à la base, et quand j'ai pensé au dispositif inclusif, je l'ai pensé avec une tête d'enseignant. C'est-à-dire, comment faire pour que ça soit fun pour moi, que ça soit facile pour moi? Comment prendre mon point de vue et que ça soit, et c'est peut-être un point de vue peut-être plus transformatif, c'est là-dessus que je vais vous apporter. Bon, l'approche non catégorielle, je vous laisse le texte, mais on trouve rarement un texte légal aussi bien écrit, si on veut, sur l'approche non catégorielle. C'est le morceau en rouge. Globalement, ils disent, mais une évaluation diagnostique à des fins administratives, ça ne sert pas à grand-chose. Les catégories sont perméables. Hein, dans un IME, j'ai des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Il n'y en a même pas un tiers qui a une déficience intellectuelle là-dedans. Hein, c'est des élèves qui ont été mauvais à l'école et très, très, très mauvais à l'école, finalement. On va leur mettre une étiquette pour les faire rentrer dans l'IME. Hein? Et en fait, ça ne propose pas d'intervention précoce, donc une approche non catégorielle, mais peut-être plus intéressante et aussi plus pédagogique. J'ai plus besoin d'un psychologue ou d'un médecin pour me dire d'aider un élève. J'ai juste besoin de savoir qu'il est en difficulté à l'école. Donc, c'est un changement aussi au niveau de la population. L'enseignant spécialisé ou l'orthopédagogue au Québec ne s'intéresse pas au handicap, il s'intéresse aux difficultés. Et un élève avec handicap peut ne pas en avoir, et un élève sans handicap peut en avoir. Donc, ce n'est pas nécessairement la même population. Réfléchir à un dispositif inclusif, c'est de dire, mais comment transformer l'école? Comment créer un dispositif qui change l'école ordinaire et que ce soit en Belgique, ou en France, notre école ordinaire a des maladies, hein, les maladies d'échec, de redoublement, de relégation. Mais il faut pouvoir la transformer, c'est pas juste en faisant une législation, en mettant quelques élèves en plus en difficulté que ça va aider. Donc, comment finalement insérer le virus dans l'école qui va permettre une belle maladie de transformation, un effet de fièvre, mais qui puisse un peu changer cette école-là? Comment aussi, comment créer des dispositifs qui soient disponibles pour tous, qui soient suffisamment flexibles pour s'intéresser à différentes populations, mais en fait aux 24 élèves, aux 25 élèves de ma classe au final, et pas seulement un dispositif pour autistes, un dispositif pour dyslexiques, un dispositif pour troubles du comportement, un dispositif pour TDAH. On va en créer des milliers, puis on va créer tous les sigles qui vont avec aussi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, parce qu'on se rend compte aussi qu'on crée beaucoup de dispositifs, on crée beaucoup d'enveloppes budgétaires, on dépense beaucoup d'argent en France et en Belgique pour nos élèves, bien, on le dépense dans plein d'enveloppes différentes. On ne le dépense pas toujours dans la classe. Hein? Déjà, sur le salaire des enseignants, ce serait peut-être une première chose. Puis aussi, bien, c'est de dire que c'est un enseignement de qualité, mais il faut avoir un dispositif aussi qui est probant. Et la qualité, ça veut dire qu'il est basé sur la science, sur les mesures pratiques probantes, qui fonctionnent, pas parce que je dis philosophiquement que ça fonctionne, qui fonctionnent parce qu'il y a des preuves empiriques de son fonctionnement. Et qu'il y a une théorie qui explique aussi ce type-là. Donc, c'est aussi quitter un peu le... Des fois, en pédagogie, on a un moment de jargon ou de philosophie déconnectée. Hein, je prends le cas de la méthode globale en lecture. Au niveau du discours, ça se tient de A à Z. C'est merveilleux, c'est attirant. J'ai des frissons juste encore, j'entends. Je trouve ça encore attirant. C'est juste que ça ne fonctionne pas pour les élèves en difficulté. C'est ça. Hein, c'est contre-intuitif. Et en inclusion scolaire et dans le co-enseignement, on a beaucoup de choses contre-intuitives. Hein, ça devrait marcher. Hein? Logiquement, on devrait mettre les élèves dans des classes séparées. Logiquement. Mais ça ne fonctionne pas bien. Hein, mais c'est intuitif, hein? C'est contre-intuitif de penser l'inclusion scolaire. On va penser un petit peu aussi autrement. Dans les écoles, il y a trois grands modèles. Je parlerai moins du premier. Mais on va parler plus des deuxièmes qui sont très présents, modèle de co-intervention, modèle de co-enseignement. On va plus définir chacun les deux. Co-intervention, c'est un soutien à l'élève. C'est l'élève qui a un problème. C'est l'élève qui a une difficulté, donc c'est l'élève qu'on va aider. La co-intervention peut se faire interne ou externe. Interne, quelqu'un vient en classe, qui n'est pas un enseignant. Externe, quelqu'un prend un élève de la classe, et là, ça peut être un enseignant éventuellement. Quand il y a deux enseignants en classe, on appellera toujours ça du co-enseignement. Il y a un enseignant en classe qui enseigne, il y en a un autre dans le fond qui fait des corrections, c'est du co-enseignement. C'est du mauvais co-enseignement, mais c'est du co-enseignement. C'est comme un mariage. Il y a des bons mariages, des moins beaux mariages, mais c'est toujours un mariage. On va pouvoir le voir un petit peu comme ça. Interne, mais par exemple, il y a un traducteur en langue des signes, une AESH qui vient en classe pour un élève TSA. Hein, c'est des choses qu'on voit quand même assez fréquemment, de plus en plus fréquemment dans nos écoles. Externe, c'est mardi 10h. Kevin, oui, ben, tu vas être ton maître E aujourd'hui là, pour faire ta rééducation. Donc, Kevin prend son petit cahier, va avec le maître E dans son petit local et revient après. Hein, différentes formules où on va sortir de la classe, on va externaliser l'aide institutionnelle. Il y a une diversité d'intervenants, ça peut être des psychologues, des orthophonistes, des maîtres E, ainsi de suite, et des diversités de pratiques pédagogiques, thérapeutiques ou autres. Si moi, je m'intéresse aux pédagogiques et je suis plus spécialisé là-dedans, potentiellement, les effets sont très forts, en fait, de ça. Ce modèle de service-là, il peut fonctionner très bien, mais c'est ce que j'appelle un effet laser. Ça fonctionne très bien sur un point bien précis. Ça veut dire, j'apprends les lettres. Ça va fonctionner très bien. Je vais apprendre une résolution de problème et une méthode, ça va fonctionner très bien. Le co-enseignement, on verra, c'est un effet plus large, un effet faisceau. Donc, ça peut fonctionner très bien, mais sur des micro-trucs, sur des micro-contenus, sur des micro-objectifs. Et quand ça fonctionne bien, c'est pas parce que je sors l'élève, c'est que j'ai un protocole d'intervention, 10 à 15 semaines, 3 à 5 fois par semaine, une demi-heure systématiquement à chaque fois. Donc, c'est un investissement de ressources extrêmement important. Et l'enseignant spécialisé qui fait cette intervention-là est formé, donc va appliquer un protocole, va appliquer une recette, point par point, le protocole de la recherche, en quelque sorte, hein, de l'article qui a été publié, il va l'appliquer point par point. Quand je vais dans le reste du Canada, j'avais une recherche dans les provinces anglophones du Canada, ils suivent ça, en fait. Ils ont tendance à faire un peu ça. Hein, ils vont suivre une formation, puis ils vont appliquer point par point. Et quand ils parlent des Québécois, on voit bien, ils disent, bien, au Québec, vous êtes sloppy. Ça veut dire, vous êtes bâcleux, vous bâclez. En fait, vous ne faites jamais tout bien, mais oui, chez nous, nos enseignants, ils ont 4 ans d'université après 2 années d'enseignement supérieur. Ils ont 6 années d'enseignement supérieur. Donc, quand ils reçoivent un truc, ils font « ben ça, je le fais, ça, je le fais, ça, je le fais pas. Hein? » Les anglophones, c'est « ça, je fais tout, je discute pas de ça. » Donc, appliquer des protocoles, c'est embêtant pour certains pédagogues, parce qu'on a notre liberté pédagogique, on l'a moins, on l'a plus ici. Donc, puis ça demande aussi un apport de ressources, ça veut dire pour un élève, je vais devoir passer, par exemple, 2 heures pour un seul élève par semaine, parce qu'une demi-heure par jour, 4 fois par jour. Mais, donc, il faut des conditions de fidélité, ça doit être respecté à la lettre. L'intensité, ça doit être très intensif, bien entendu. Et en même temps, mais ça, c'est un résultat aussi intéressant, que je fasse une intervention un pour un pour deux, un pour quatre ou un pour six, j'ai la même efficacité. Bon, tiens, ça peut déjà éclairer les enseignants spécialisés en disant, mais je peux prendre Kevin lundi, Melinda mardi, Mohamed mercredi et Joseph jeudi, ou je peux les prendre les quatre s'ils ont des besoins similaires, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et multiplier l'intervention et avoir une intervention plus efficace. Donc ça nous apprend quand même ces éléments-là. Mais il y a quand même certaines limites. Première chose, c'est que ça coûte cher. Du 1 pour 1, ça coûte cher, donc je ne peux pas le multiplier à tout le monde. Puis en même temps, bien, ça veut dire que Maxime, mon bon élève, ne recevra jamais d'enseignant spécialisé. Ça ne s'approchera jamais de lui, parce qu'il ne va jamais sortir de la classe pour le voir. Hein? C'est des ressources qu'il ne recevra jamais. Ça peut avoir un impact sur les élèves de quitter la classe. Bien, ça peut être stigmatisant. Hein? Ce n'est pas Maxime qui quitte la classe, c'est Dylan. Mais au fil du temps, peut-être après quelques années, il va se rendre compte qu'il est peut-être pas bon, hein, c'est peut-être pour ça qu'il sort, et ainsi de suite, à part un effet. Quand je quitte la classe, mais je quitte la classe, je quitte un enseignement. Donc, je manque des contenus. Il faut pouvoir les rattraper, ces contenus-là. Hein, c'est pas nécessairement facile. Et aussi, mais quand on regarde ce qui se fait en réalité, hein, dans les écoles, et pas dans des protocoles de recherche, dans les écoles normales, hein, les écoles ordinaires, mais les gens, ce qu'ils font à part, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus lent. C'est plus des procédures de base. Très souvent, quand on va faire de la lecture en classe, ça va être sur des tâches plus complexes. Quand on va faire de la lecture en un ou en un à un, ça va être souvent plus sur des procédures, plus sur la fluidité, plus sur des petites stratégies. Hein? Souvent, c'est simplifié, parce qu'on doit revoir les bases, on doit revoir les bases. Il n'a pas ses fondations, on doit revoir les bases, on revoit les bases. Et finalement, il n'accède jamais à des contenus supérieurs de résolution de problèmes, parce qu'il ne sait pas ses tables. Hein, et on revoit les tables, on voit les tables. Moi, souvent, quand mes collègues me disaient ça en Belgique, je dis, ben, il n'y a pas ses bases, il n'y a pas ses bases, il y a des trous dans ses fondations. Je dis, c'est excellent d'avoir des trous dans ses fondations. Ça s'appelle des fenêtres, et il en faut. Hein, et tout le monde, on a des trous dans notre fondation. Et parfois, on veut que tout soit parfait, tout réglé. Mais mes élèves, quand j'ai diplômé en 6e primaire, en ordinaire, ils n'étaient pas tous parfaits. Ils n'avaient pas tous ça. Hein, on acceptait certains trous, mais parfois, pour des élèves à besoins spécifiques, on accepte moins certaines choses. On voulait absolument réparer un peu tout. Chez les enseignants, mais ça peut avoir un impact aussi de déresponsabilisation. Il est dyslexique, il y a un orthophoniste, il y a un maîtresse, c'est toi le spécialiste, tu as fait un KPI, c'est toi le spécialiste. Ah, c'est plus moi, c'est toi le spécialiste des handicapés troublés. Le type de tâches proposées, c'est ce que je disais, des tâches plus simples, plus des habiletés de base et moins des tâches complexes. On va faire du groupement homogène, je vais mettre les élèves mauvais avec les élèves mauvais, mais on sait que c'est très mauvais faire ça. Hein? Mettre les faibles avec les faibles, c'est mauvais pour les faibles. Puis ça n'avantage pas les forts. Hein, les forts, en hétérogénéité, en homogénéité, ont les mêmes performances. Par contre, les faibles, ils baissent vraiment très fort quand ils sont mis avec des élèves faibles. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et aussi, bien, je pense au niveau de l'enseignant, pas juste la déresponsabilisation, tu enlèves un problème à un enseignant, bien, tu enlèves la possibilité de surmonter le problème. On dit, bien, notre apprentissage à l'école fonctionne par problème. Hein, il y a une zone proximale de développement et l'élève, grâce au problème et sa capacité de résolution dans le conflit cognitif, va réussir à... Mais pas l'enseignant. Hein? Lui, il a un problème, il faut me l'enlever. Mais c'est vrai que si je donne une tâche complexe à un élève et qu'elle est trop difficile, il va se démotiver. Donc, souvent, ce qu'on va proposer, on va travailler peut-être à deux ou en équipe pour être capable de résoudre le problème. Ah, bien, tiens, peut-être que chez l'enseignant, c'est des choses qu'on peut aussi appliquer. Il y a une absence de transparence. J'ai la meilleure maître E du monde qui fait des stratégies fantastiques. Elle prend Kevin 2 fois par semaine. C'est hallucinant, il progresse. Mais moi, je ne deviendrai jamais une meilleure enseignante grâce à ça, parce que je ne verrai jamais travailler le maître. Tous ces trucs, toutes ces pratiques pédagogiques ne sont pas secrets, ce n'est pas des actes réservés, ce n'est pas des actes médicaux. Je pourrais les piquer. Non, je ne peux pas les piquer, je ne les vois pas. Et en plus, mais même, moi je dis, la plupart des maîtres, en tout cas beaucoup de maîtres disent, ben, en fait, mon élève, en un, quand je suis seul avec lui, ça marche bien. Ben oui, parce que le problème, c'est en classe qu'il échoue. Et donc, le problème, c'est celui du transfert. Comment l'élève va être capable de transférer les stratégies apprises avec le maître E ou le maître spécialisé ou l'orthophoniste, peu importe, dans le contexte de classe, dans une situation réelle? Déjà, si le maître E n'est jamais allé en classe ou le maître spécialisé n'est jamais allé en classe, ça va être difficile de pouvoir transférer. Donc, souvent, on va dire, une co-intervention, c'est très bien, mais il faut un service après-vente. Il faut s'assurer que cette pratique-là soit intégrée à la vie de la classe, que l'enseignant le sache, qu'il rappelle peut-être les outils, il a une stratégie, c'est maintenant que tu dois l'utiliser, c'est maintenant que tu l'utilises, prends ton truc, et que ce soit tant chez l'élève que chez l'enseignant, mais pouvoir s'assurer de ce service-là, et je dirais même un service avant, c'est-à-dire, bien, avant de prendre un élève à part, va donc voir en classe comment ça marche. Parce que si ça se trouve, tu n'as pas besoin de le prendre. Si ça se trouve, en fait, l'enfant est juste inattentif, il s'ennuie, il est démotivé. Il y a peut-être d'autres interventions que de la rééducation que tu peux faire pour cet élève-là. Donc, voir, c'est quoi le contre-didactique de l'enseignant? C'est quoi la demande de l'enseignant? Moi, je vois des enseignants qui mettent des élèves en difficulté par leur méthode. Donc, si je vais prendre Kevin une heure par semaine, ça ne va rien changer. C'est avec l'enseignant que je dois travailler. C'est lui que je dois changer de pratique. C'est sûr que c'est compliqué de faire ça. Hein? C'est des collègues, c'est plus facile de travailler avec un élève pauvre et mauvais. Hein, mais c'est peut-être plus payant de travailler avec un collègue parce qu'on change sur une vingtaine d'élèves, sur une vingtaine d'années. Mais ça fait 400 élèves qui sont travaillés peut-être des fois par juste une intervention de l'enseignant. Et aussi, on sait qu'en psychologie cognitive, j'apprends dans un local, je dois performer dans un autre local, 25% de l'information est perdue. Donc, un, le problème du transfert, contexte différent, et en plus, juste au niveau de la mémoire, ça aide pas. Donc, peut-être intéressant de travailler un peu plus en salle de classe pour différents aspects, dont ceux-là et d'autres dont je vais parler. Le co-enseignement, mais c'est un soutien direct à l'enseignant et à l'élève. On aide l'élève, bien entendu, on est en classe. Mais on aide aussi l'enseignant ou l'enseignement qui est donné, parce qu'on considère que l'enseignant a des problèmes. Hein, s'il dit que tel élève, on doit absolument le prendre, bien, c'est que peut-être que c'est toi qui as un problème, donc on va venir t'aider. C'est un travail pédagogique commun, dans un même espace, un même groupe, espace-temps, qui partage les mêmes objectifs, hein, pour un même groupe d'élèves. Bon, première chose, est-ce que ça veut dire que si pendant 10 minutes, il y a un deuxième enseignant qui est dans le couloir en train de faire travailler trois élèves sur une carte du monde, en train de colorier, c'est plus du co-enseignement? Oui, c'est toujours du co-enseignement. Hein? Dans le même local, on s'entend, c'est la grande majorité du temps, mais parfois pour des raisons de confort, il y a des élèves qui travaillent à droite ou à gauche, ça reste du co-enseignement, c'est le même objectif pour le même groupe. Quatre fondements au co-enseignement, fondement orthopédagogique, on va dire, ou le fondement spécialisé, mais je préfère le terme orthopédagogique. Mais au Québec et en Belgique, il y a le terme orthopédagogique, mais pas en France, ou pas sur la même dénomination. Le fondement orthopédagogique, c'est lequel? C'est dire, mais parce qu'il y a des élèves à besoins spécifiques dans ma classe, j'ai un apport d'enseignant, j'ai un deuxième enseignant qui vient, un maître E, un maître plus, peu importe. Hein? Ça veut dire que dans cette configuration-là, le ratio est diminué. J'ai deux profs pour 24 élèves. Donc, finalement, j'ai du 1 pour 12. Le projet du président Macron au premier en CP de baisser les ratios à 12, en fait, scientifiquement, c'est à partir de 12 que ça fonctionne. Donc, il a fait une bonne... C'est pas si con, finalement. Par contre, ça aurait été intéressant. En fait, il y avait une opportunité fantastique de faire du co-enseignement dans pas mal tous les CP, parce qu'on aurait fait du 2 pour 24. Et dans 10 % des CP français, ça existe parce qu'il n'y a pas suffisamment de local. Donc, les deux classes sont fusionnées avec deux profs. Et quand on interroge ces enseignants-là, ils disent, on interroge les 1 pour 12. Qu'est-ce que ça change? Ah, ben c'est mieux, il y a moins d'élèves, moins de corrections, j'ai plus de soutien, ainsi de suite. Mais est-ce que tu enseignes comme l'année passée? Ah ouais, pareil. Quand on collectionne les 2 pour 24, c'est toujours du 1 pour 12 en fraction, mais c'est un peu différent. Ben c'est bien ça. Est-ce que tu enseignes comme l'année passée? Ah, pas du tout. Je suis obligé de changer de pratique parce que j'ai ma collègue avec moi. En fait, on est obligé de différencier. Parce qu'avoir deux enseignants, s'il y en a un dans le fond qui ne fout rien, OK, mais si les deux travaillent, ben on est pas mal obligé de différencier. Donc, on offre finalement un enseignement qui est différent et qui est différent de l'année précédente aussi. C'est ce qui est plus intéressant. Didactico-pédagogique, deux profs de CM1 décident de fusionner leur classe. Tu as 22 élèves, j'en ai 22, on abat le mur et on travaille avec 44. Pour l'instant, au Québec, ça se développe très fort, ça, hein, parce que ça ne coûte rien. Il n'y a pas de ressources en plus. Hein. Et en plus, je peux mutualiser les heures de maître E. S'il y avait 4 heures de maître E ou de maître spécial, ou peu importe, de prise en charge externe dans ta classe, et moi 4 heures, mais ça me fait 8 heures maintenant dans ma grande classe. 8 heures, c'est un tiers-temps. Ça veut dire qu'on pourrait faire tous les cours de français à 3. Ouais. On peut penser aussi comme ça. Ah, ou tu pourrais prendre des élèves toc-toc-toc comme tu faisais avant. Mais voilà. Donc, et finalement, les enseignants, parce que moi, je trouve que c'est un nombre important, 44, mais les enseignants me disent, ben, en fait, la plupart du temps, je peux donner que je donne le cours à 20 ou à 32, ça ne change rien. C'est toujours les élèves en difficulté, et ça, le deuxième enseignant peut s'en occuper. Donc, on voit souvent dans les co-enseignements didactico-pédagogiques, dans un deuxième temps, ils vont avoir tendance à faire de l'orthopédagogique. Hein? En fait, on le fait au départ parce qu'on veut faire de la pédagogie différente, et on s'intéresse aux élèves en difficulté. Au niveau orthopédagogique, on s'intéresse aux élèves en difficulté, et pour ce faire, on doit faire une pédagogie différente. C'est un peu ouais. Linguistique, c'est un peu nouveau. Deux enseignants qui ne parlent pas la même langue enseignent la même matière. Donc, pour l'instant, j'ai des écoles comme ça, où c'est souvent pour apprendre une deuxième langue. Donc, Émile, l'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, par exemple, mais ils ont des cours d'histoire en français et anglais. Donc, pour l'instant, j'ai une école française à Casablanca avec qui je travaille, c'est comme ça. Donc, eux, c'est français et anglais. Quand je suis allé au départ, c'était intéressant parce que tu as le professeur, l'institut français qui donne son cours normalement et tu as le maître anglais qui est derrière, qui, lui, c'était pour l'Halloween. Donc, il faisait « pumpkins ». Pumpkins. Après ça, ça continuait. 10 minutes après, il faisait « seeds ». Seeds, parce qu'il parlait des graines. Donc, en fait, ce n'était pas du très bon co-enseignement. Hein? Surtout, ça ne développait pas beaucoup les capacités linguistiques de nos élèves, parce que le but, c'était de leur faire apprendre l'anglais. Donc, c'est mélanger deux enseignants de la même matière, mais qui enseignent dans deux langues différentes. Ce qu'on est arrivé à faire, c'est d'avoir 90 % d'anglais, et c'est le professeur français qui traduit quand les élèves ne comprennent pas, hein? Plutôt qu'avoir le contraire. Développemental, mais c'est faire, par exemple, ces stages à deux. Travailler, donc la formation des maîtres, la formation des enseignants. Je sais qu'en France, c'est un peu différent, l'idée de stage. Mais au Québec, il y a comme 4 stages pendant la formation de 4 ans. Chaque année, il y a son stage. Mais il y a certains stages qu'on peut faire à deux. Ils le font déjà, en quelque sorte, parce que parfois, il manque de locaux, il manque de classes. On n'a pas suffisamment de profs. On va mettre les deux dans la même classe, mais les gens ne co-enseignent pas, alors que techniquement, c'est faisable. Et on est parti sur cette idée-là parce que le co-enseignement, il y a un impact imprévu, c'est le développement professionnel. Les gens qui co-enseignent deviennent, selon leur dire et selon les observations, de meilleurs enseignants. Et donc, on s'est dit, bien, si ça aide déjà à former des enseignants en fonction, ça peut être intéressant pour former des enseignants en formation initiale. Donc, ça se développe un petit peu plus, mais on a moins de résultats à ce niveau-là. Donc, le co-enseignement, ça inclut les élèves et les professionnels, les enseignants. On avait peut-être oublié eux, en fait, dans l'inclusion scolaire. On avait oublié d'intégrer, on met l'élève en classe ou les élèves en classe, mais on ne met pas la ressource en classe. Bien, c'est peut-être la première idée. Pour beaucoup d'auteurs, dont moi, c'est le dispositif le plus en adéquation avec l'inclusion scolaire. C'est le dispositif le plus transformatif de la classe régulière. Hein? Si la classe doit être inclusive, mais il faut changer la classe, il faut changer l'enseignement qui est donné. Flexible et probant, je l'ai déjà dit. C'est centré tant sur l'enseignant que sur l'élève. Bien, si j'ai 8 heures par semaine de co-enseignement, mais pendant 8 heures, Kevin, il y a quelqu'un en classe. S'il est juste pris 1 heure ou 2 par semaine, le reste du temps, mais il est tout seul, il est toujours en échec. Donc, c'est cette idée-là. Comment assurer un service continu? Moi, j'étais enseignant en classe spécialisée, je n'avais juste 10 ou 12. Hein, bien, c'est déjà beaucoup. Avec des troubles du comportement, troubles d'apprentissage. Mais cette idée-là, comment garder quand même l'idée d'avoir un service continu, d'avoir toujours une présence en classe ou une présence relativement intensive aussi? C'est l'idée d'augmenter la zone proximale de développement des enseignants. Si on rajoute des élèves qui ont plus de problèmes, mais peut-être que ça dépasse votre zone proximale de développement. Pas parce que vous êtes mauvais intrinsèquement, c'est juste parce que c'est trop difficile. Et le meilleur chirurgien du monde a toujours besoin de plusieurs personnes dans la table d'opération. Hein, il ne peut pas opérer, personne ne peut opérer quelqu'un tout seul. Mais en enseignement, bizarrement, hein, on est parents, quand on est parents, mais il faut être à deux, parce que si on est monoparental, c'est plus difficile. Ma mère était, mon père est décédé quand j'étais jeune, donc elle était monoparentale, c'était très dur. Les parents monoparentales trouvent très, très difficile, mais les enseignants, mono-enseignants, trouvent ça normal. Hein, enseigner avec 22 élèves, 24 élèves tout seul, c'est normal, mais élever 2 élèves, il faut être absolument à deux, parce que ça, c'est ingérable. Voilà. Donc, c'est assez normal dans notre société occidentale d'élever les élèves à deux, d'élever les enfants à deux. Hein? Mais souvent, les enseignants, c'est comme des patrons de PME, hein, petite et moyenne entreprise, actionnaire unique. Donc, on est tout seul, seul maître à bord, et on décide de tout. Donc, s'ouvrir aux autres, c'est pas dans notre culture professionnelle. On n'a pas connu le co-enseignement comme élève, on n'a pas de modèle, c'est pas facile. Hein? Puis, on aime bien, moi aussi, j'aimais bien ça, fermer ma porte, puis laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Hein? Dans le co-enseignement, mais il y a un partage ici. Hein? C'est aussi l'idée de rendre l'enseignement pour tous disponible et de ne pas stigmatiser les élèves. Parce qu'on sait qu'il y a un effet du dispositif. C'est-à-dire, des fois, je peux aider très fort un élève, mais ça a un coût de stigmatisation, d'attitude, ainsi de suite. Quand on co-enseigne avant, pendant et après. Co-enseigner, ce n'est pas juste enseigner. Pour n'importe qui a été enseignant, mais il se rend compte que la meilleure façon de ne pas enseigner, c'est de bien planifier. Moi, j'aimais pas parler en classe, mais quand je ne devais pas parler en classe, je devais planifier pour que les élèves soient dans leurs tâches, comprennent la consigne, et ainsi de suite. Puis c'est aussi, co-enseigner, c'est aussi après le cours. Parce qu'on débrief, on en parle, qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'étais tout seul, je me disais, ah, oui, merde, ça s'est mal passé, il faut changer un truc. Là, on est à deux. Donc, on réfléchit. Et souvent, le après et le avant d'après. C'est-à-dire, ah, ben tiens, aujourd'hui, ça s'est mal passé ou ça s'est bien passé. Demain, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent projeté dans le futur aussi. Puis en même temps, on va dire aussi, co-enseigner, ce n'est pas juste enseigner. Parce qu'un enseignant, ça ne fait pas juste enseigner. Si on pense qu'un enseignant, ça fait juste parler aux élèves, ben non, on se trompe. Un enseignant, ben, ça écrit au tableau. Un enseignant, parfois, ça fait des corrections. Moi, je passais de longues minutes comme ça. Hey! Non! Ben, tu sais, il faisait une évaluation, un travail. J'enseignais pas, je faisais le pion. Un enseignant, c'est aussi quelqu'un qui court dans le couloir. Ben oui, tu arrives le matin. Ah, merde, faut tout copier. Merde, j'ai fait la mauvaise. Bon, les amis, restez calmes, je reviens en deux minutes. Et là, on part. C'est aussi ça, enseigner. Enseigner, c'est aussi discipliner un élève. Parfois, un élève... Donc, c'est tout ça, c'est pas juste enseigner un contenu, c'est l'ensemble de la tâche aussi. Bon, quand on co-enseigne, les gens ont souvent la représentation de co-enseigner. C'est le dernier, c'est un enseignement partagé. Non, co-enseigner, c'est... L'enseignement partagé, c'est une des façons de co-enseigner. Et je dis souvent aux jeunes co-enseignants, « Commencez pas par ça. » Parce qu'en fait, vous allez faire de la co-animation. Et ça, je le vois, pour l'instant, il y a une classe au Québec en histoire secondaire 4, avant l'examen. Bien, en tout cas, c'est l'année de l'examen en histoire chez nous. Donc, on va les voir tout seuls, ça se passe bien. Bien, ça se passe mal, bien, ils veulent co-enseigner. Donc, ils co-enseignent. Et qu'est-ce qui a changé? Oui, le spectacle est plus intéressant, mais c'est des profs d'histoire. En tout cas, j'ai été d'abord formé en histoire, moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais le cours dure 75 minutes, mais ils parlent 72 minutes. Parce que les trois dernières minutes, les élèves préparent leur truc pour aller près de la porte. Et donc, quand ils étaient à deux, qu'est-ce qui se passait? Mais ils parlaient à deux 72 minutes. Bien, c'était intéressant, c'était dynamique, ils faisaient des blagues, ils se l'envoyaient la balle, les élèves étaient un peu plus intéressés, mais ils n'étaient pas plus en activité, ce n'était pas plus différencié. Donc, souvent, brûler les étapes, ça amène, c'est pas toujours une bonne idée. Donc, on va voir différentes configurations, puis on va en parler nécessairement une à une. Un enseigne, l'autre observe ou aide. Bien, c'est souvent par ça qu'il faut commencer le co-enseignement, c'est-à-dire, mais d'abord, rentrer dans la classe de l'autre. Allez voir comment il enseigne. Puis au départ, je dis, faites juste observer, et allez être n'importe quel maître spécialisé, maître KPI, peu importe, devrait commencer par ça au début d'année, voir qu'est-ce qui se passe dans cette classe-là, c'est quoi le contrat didactique, comment se met mon élève. Des fois, tu observes un élève, tu dis, bon, les amis, on va faire une lecture aujourd'hui, lecture compréhension. Et là, t'as l'élève Kevin qui fait... Non, il n'aime pas ça, la lecture, ça se voit, puis il va tailler son crayon, il perd son truc. Tout. Bon, ben, mon intervention, elle va peut-être être pas nécessairement sur des remédiations bien chiantes de lecture répétée. Elle va peut-être lui donner de goût à lire un petit peu. Je vais peut-être travailler cet aspect-là. Donc, observer, c'est quand même utile. Et observer son collègue aussi. Comment il enseigne? C'est quoi son contrat didactique? On va aux toilettes comment dans cette classe-là? Non, mais c'est tout con. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, vas-y. Bien, les élèves, on sait, c'est comme les enfants, ils essayent avec maman, ça ne marche pas, ils essayent avec papa. Mais en classe de co-enseignement, c'est pareil. Donc, si toi, dans ta classe, tu es le genre de prof qui dit « Non, chez nous, on pisse à heure fixe, moi, je fais comme ça. » J'avais des grands, j'avais des 12 ans. Donc, chez nous, tu as envie de pisser à 10h30, à 10h30, sinon tu ne peux pas avoir... Et tu as faim à 11h30, OK? C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des classes où les élèves peuvent aller aux toilettes un peu quand ils veulent. Mais voilà, c'est comment on gère la discipline, comment on gère les règles. Donc, déjà, apprendre comment fonctionne l'autre. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'aider, donc c'est déjà une première chose. Ah, je peux aider les élèves, les mains sont répondues plus vite quand ils ont des mains levées, donc je peux soutenir les élèves, je peux m'asseoir à côté de lui, ainsi de suite. En même temps, on ne va pas le cacher, avoir deux profs en classe a un effet sur le comportement. Juste une présence semi-active, là, une main bienfaisante. Notre petit Kevin est un peu difficile pendant l'explication. Tu vas t'asseoir à côté et tout à coup, il est très attentif. Et là, tu mets une petite main comme ça. Ça marche très, très bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me prenais derrière. Parce que moi, je respire fort. Parce que je suis un peu rouge sanguin. Moi, je me mets derrière l'élève. Puis... juste la petite respiration dans le dos, dans la nuque, là, hein? C'est un effet. Donc, on voit dans les classes de co-enseignement, mais souvent moins de problèmes de discipline. C'est des classes qui sont plus investies au niveau de la géographie. Hein? Les profs se déplacent un peu plus partout, bien, tout simplement parce que c'est un peu plus facile. C'est aussi moins de problèmes de transition. Au Québec, pour l'instant, tout le monde a des TBI, hein, des tableaux blancs interactifs. Il n'y a plus de craie, c'est fini, là, depuis des années. Mais ça ne marche jamais, ces trucs-là. Ça pète tout le temps. Donc, à chaque fois que j'y vais, il est débalancé, il est pris, mon document. Et c'est tout con, mais l'autre collègue arrive, puis pouf, boucle. Voilà, c'est réparé. Mais dans une classe normale, ça prend 10 minutes de panique où tu es rouge, puis là, ça va. Dans cette classe-là, l'autre collègue vient appuyer. Un autre truc tout con que j'ai vu aussi récemment, donc il prépare une activité avec des petites enveloppes, c'est en secondaire, là. Puis après ça, elle prépare les mêmes enveloppes sur le tableau blanc. Donc, elle présente la première slide. Ça coince. Mais vu que c'est des profs expérimentés, elle dit, je t'en ai préparé 10 autres pareils. Donc, tu prends l'autre document après, et voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça à deux qui permettent d'éviter des transitions entre activités. Aussi, nos élèves, dans le co-enseignement, on a une classe de 24 régulières. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec mes élèves bons? Ceux qui ont fini après 20 minutes. Bien, ça aussi, c'est des choses qu'on peut discuter dans le co-enseignement. On verra qu'il y a des configurations. Mais qu'est-ce que je fais avec les élèves qui ont déjà fini d'avance? Qu'est-ce que je fais avec les élèves qui ont déjà compris l'objectif avant d'avoir commencé à parler? Alors moi, j'ai des élèves, je pourrais donner directement l'exercice et ils réussiraient. Bien, eux, ils vont se taper 20 minutes, 30 minutes d'explication inutile pour eux. Je ne pourrais pas différencier ça. Si je n'ai pas une classe qui est toute identique, bien, peut-être que je peux déjà différencier ça. Et moi, souvent, j'appelle ça pelleter. Ouais. Mais si dans ta classe de 24, tu en as 8 qui ont déjà compris et tu peux déjà les lancer dans une tâche, tu es rendu qu'une classe de 14 ou de 16. Ouais, et là, quand on est à deux avec 16, c'est peut-être un peu plus intéressant aussi. Et généralement, mes élèves meilleurs, plus rapides, sont souvent un peu plus calmes et plus autonomes. Et donc, ça me permet de leur donner, eux, une tâche à leur niveau et en même temps de m'intéresser aussi aux autres élèves. Le problème de cette configuration-là, si vous faites toujours ça, les élèves vont comprendre un jour que dans la classe, il y a un prof puis il y a un esclave. Ça veut dire, tu as le prof normal, puis tu as son assistante, hein, qu'elle lui dit quoi faire, ainsi de suite. Et quand je lève ma main, bien, je vais voir l'assistante, ainsi de suite. J'ai vu dans une classe, une fois, bien, là, j'étais intervenu. C'était le prof qui est assis ici à son bureau. Il y a Kevin qui est là, qui lève la main, puis tu as Ginette dans le fond, qui est le maître supplémentaire. Et donc, Kevin lève la main, elle fait... Non. Tu te lèves ton péteux, et tu y vas toi aussi. Donc, il faut éviter cet élément-là. Donc, une des façons pour l'éviter, mais c'est déjà de switcher. Parce que les enseignants spécialisés, on est tous des enseignants à la base. Ça veut dire, mais je peux le donner, le cours au 24, moi aussi. Et comme enseignant, je dis tout, on a tous des greatest hits, un best-of. Hein? On a tous des pratiques pédagogiques dans lesquelles on est meilleur que dans d'autres. Moi, le participe passé avec avoir, moyen. Par contre, la Belgique fédérale, j'avais ça. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire aussi bien que moi, cette leçon-là. Elle était bien travaillée, puis j'aime beaucoup la politique. Mes élèves, c'est compliqué, la Belgique, hein, donc ils comprenaient pas mal tout. Donc, c'est aussi de dire, mais on peut s'échanger nos pratiques. Et comme prof, mais voir mon collègue enseigner, ben, j'apprends des trucs. Je vois, ben tiens. Puis en plus, l'avantage, c'est que c'est pas juste dire, fais comme ça, ça marche mieux. Non, je le fais, et moi, je vais voir si ça marche mieux directement, live. Donc, au niveau du développement, c'est déjà intéressant de voir le collègue travailler. On fait peu ça dans nos écoles, visiter les autres. Hein, il y a l'inspecteur qui vient nous visiter, mais à part ça, nos collègues viennent rarement nous visiter. Bien, c'est déjà avoir cette idée-là, donc pouvoir se switcher de rôle. Et comme je dis, on est tous des enseignants, puis on va apprendre les uns des autres aussi. Puis, ça permet d'alléger. Moi, quand on me dit, tiens, demain matin, il y a deux périodes où tu n'enseignes pas, c'est moi qui vais plus faire le leadership, bien, moi, ça m'arrange. J'ai moins de planification. Et quand on interrogeait les enseignants, ils disaient, bien, l'année passée, je préparais c'était en première en CP, je préparais 7 activités par jour. Cette année, j'en prépare 3, 3,5, 3, 4. Pourquoi? Bien, parce que ma collègue prépare plus les autres. Donc, pour moi, c'est un allègement. Par contre, je travaille toujours autant de temps. parce que mes 3-4 activités sont mieux préparées que l'année passée. Mon matériel est plus frais, ma différenciation est plus réfléchie. C'est déjà ça, hein? Mon adaptation, ma différenciation aussi. Vous allez avoir la synthèse, tout ça. L'idée aussi, c'est que ça ne demande pas trop de planification. C'est que cette façon de faire-là, mais tu peux arriver demain matin les mains dans les poches. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK, vas-y, je suis prof, je sais ce que tu veux faire. Les fractions, je maîtrise ça aussi. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est que si vous faites toujours ça, bien, c'est toujours le même qui planifie. C'est toujours le même qui corrige. Et finalement, c'est quoi l'activité? Mais c'est l'activité de l'autre qu'on fait à deux. Ce n'est pas une activité différente. C'est une activité que le prof faisait avant. Parfois, c'est bien, mais on n'est pas dans une classe transformée. Hein? Donc, c'est bien de trouver l'équilibre entre la routine et l'innovation dans une classe de co-enseignement. Oui, il y a des bonnes pratiques, on ne va pas changer tout ce qui est bon à chaque fois, mais en même temps, il faut avoir quand même un changement. Donc, avoir cette tension-là entre innovation et routine au niveau des pratiques. L'autre façon de faire enseignement parallèle, les deux enseignants se divisent le groupe en deux. Toi, tu prends les roux, moi, je prends les blonds. Toi, tu prends les filles, moi, je prends les garçons. Toi, tu prends les bons, moi, je prends les mauvais. Toi, tu prends ceux qui sont plus comme ça, puis moi, je prends ceux qui sont plus comme ça. C'est très bien. J'ai le cas actuellement, j'ai deux enseignantes qui co-enseignent. En guillemets, ils s'entendent, mais ils ont deux styles pédagogiques très différents. Ça veut dire que quand une enseignante voit l'autre travailler, ça l'énerve. Moi, je ne ferais pas comme ça. Ah, là, c'est trop long. Moi, je fais ci. Bon, au final, après 60 minutes, elle a atteint son objectif. L'autre aussi. Mais ils ont deux façons différentes de travailler. Mais c'est bien, des fois, de se diviser le groupe en deux. Tiens, prends-en 12, fais à ta mode. Moi, j'en prends 12, je fais à la mienne. L'important, c'est d'atteindre le même objectif. Et peut-être que, des fois, ça peut être les plus forts, les plus faibles, mais il faut éviter, en général, ce n'est pas parce qu'on le fait une fois ou deux, ce n'est pas grave, mais pouvoir aussi varier un petit peu les élèves qui sont pris. Puis des fois, c'est juste se dire aussi, tiens, regarde, pendant une demi-heure, moi, je fais fraction, toi, tu fais participe passé, et l'autre demi-heure, on switch, je refais fraction et tu refais participe passé. Peut-être parce que c'est un contenu plus difficile, qui demande plus d'interaction, que je vais plus contrôler. Voilà. Donc, c'est pouvoir un peu se partager. Donc, des fois, avoir des styles pédagogiques très différents et incompatibles, mais c'est une force. Donc, l'idée du co-enseignement, c'est de dire, mais l'hétérogénéité de la classe et l'hétérogénéité des enseignants sont une force. Il ne faut pas arrêter de réduire l'hétérogénéité, augmentons-la jusqu'à un certain sens. Et avoir deux enseignants très typés, très différents, mais c'est très bien. Hein? Tant qu'ils s'entendent, au moins sur le même groupe d'élèves et sur les mêmes objectifs. Mais les méthodes peuvent diverger, ça ne pose aucun problème. Parfois pour des raisons de confort, des raisons de bruit, ainsi de suite. Très souvent, les enseignants vont dire « Ah, mais il vaut mieux le faire dans deux locaux différents. » Non. En tout cas, tu peux. Mais essayer tant que faire se peut, non. C'est sûr que si toi, tu enseignes un contenu nouveau et moi, j'enseigne un contenu nouveau en même temps, ouais, deux locaux, c'est mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'enseigner deux contenus nouveaux en même temps. Peut-être que l'autre prof, il fait déjà une exercisation et moi, j'enseigne peut-être un contenu nouveau à ce moment-là, ainsi de suite. Pouvoir se varier et rester dans le même local. Par exemple, l'année passée, on l'a vu en secondaire. Ils ont fait, après un pré-test avant l'examen, ils font ça. Les bons et bons, puis ceux qui sont déjà en réussite, ainsi de suite. Mais l'avantage d'avoir travaillé dans le même local, c'est que ceux qui étaient déjà en réussite ont été lancés dans la tâche après 5-10 minutes, et le prof a été aidé les plus faibles après. Donc, finalement, j'avais deux profs pour 12 élèves, et mes 12 plus forts travaillaient en autonomie. Donc, garder le même local, ça permet aussi des fois de multiplier ou de démultiplier les interventions. Ça ne demande pas trop de planification commune aussi. Chacun prépare son truc, et on peut s'entendre. L'enseignement par atelier. Tout le monde connaît les ateliers? Les ateliers, c'est sympa. Moi, j'adorais ça quand je t'incite à faire des ateliers. Tous les mardis, après-midi, je fais l'atelier grandeur. Donc, il y avait la balance de Robert Val, il y avait le bac à sable, il y avait les tétrabriques de jus de pomme qu'il fallait mettre dans un litre. Comment 125 millilitres, ce qu'il faut pour mettre dans un litre, il en faut 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème des ateliers, c'est que c'est trop plaisant. Ça fait que les élèves se mettent à faire, font beaucoup de bruit, parlent beaucoup. Des fois, tu as des ateliers avec de l'eau, du sable, du feu, un exacto, peu importe. Fait qu'il y a un élément de danger. Hein? Puis, toutes les 5 minutes, tu fais « Les amis, 5, 4, 3, 2, 1. » On fait la petite chanson. Et ça revient au silence. Et 5 minutes après, c'est reparti. Mais c'est le fun. Et quand on a fini la journée à 3h30, on est tout rouge, on a transpiré et on dit « Hey, c'était vraiment plaisant, mais demain, on va prendre ça tranquille. » L'avantage d'être à deux, on est à deux, donc pas mal moins de problèmes de discipline à gérer, moins de planification d'ateliers à préparer aussi. On a vu tantôt que si je prends 6 élèves ou un, ça revient au même. Tiens, Je vais faire des groupes au hasard. Et bizarrement, dans ce groupe-là, Kevin, Dylan, Mohamed et Bianca, mes moins bons élèves, sont dans le même groupe. Et l'avantage d'être à deux, mais je peux avoir un qui gère le groupe, puis un qui gère un atelier, peut-être un peu plus compliqué. Mais ça me permet des fois de dire, mais quand le groupe de Dylan vient près du prof, d'avoir une médiation différente, un matériel différent, faire une intervention d'une demi-heure, trois quarts d'heure, bien intensive, avec 4, 5, 6 élèves, sans personne ne le remarque. Et le soir, quand Dylan rentre à la maison, on dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Dylan? Hey, on a fait des ateliers. Il ne dit pas, ben aujourd'hui, j'étais pris avec le maître E. Alors que oui, il a été pris avec le maître E. Mais personne ne s'en est rendu compte. Hein? Donc, ça permet aussi de naturaliser un petit peu les interventions, les faire à l'intérieur de la classe, hein, et pouvoir intervenir un petit peu de cette manière-là. Ça permet aussi de diviser la planification. Chacun peut préparer ses ateliers aussi. Vous avez la synthèse après. L'enseignement alternatif. Un enseignant prend une grande partie du groupe, l'autre enseignant prend une petite partie du groupe. On se doute qu'on va souvent prendre les mauvais élèves à part. Oui, ça peut arriver. Mais on peut aussi prendre les bons. On peut aussi prendre d'autres élèves au hasard. Par exemple, j'ai vu dans une classe, tout le monde fait du participe passé, 6 élèves vont avec le deuxième prof faire le système planétaire. Chacun travaille sur sa planète. Mais faire travailler 24 élèves sur les planètes avec le carton, le truc, parce que ça doit être à dimension, avec l'éloignement réel mis à l'échelle, c'est compliqué. À coup de 6, c'est super bien faisable. Et voilà. Et faire des participes passés à 18, ça marchait aussi très bien. Donc, parfois, c'est ça aussi. J'étais en première deuxième à Bruxelles dans une école. C'est première deuxième, c'est des tout petits, donc CP. Donc, ça commence, la cloche sonne à 8h20. On va dire qu'à 8h22, le prof est dans la cour, fait son petit rang 8h25, fait la première étape 8h26, monte l'escalier 8h32, passage aux toilettes 8h37. Après ça, on dépose les cartables, les manteaux, on enlève les bottes 8h40. On rentre en classe, on commence pas tout de suite, c'est des loulous. Donc, petit accueil, ça parle, 8h47, on commence un petit peu, bon, je fais les présences. En Belgique, la cantine, c'est un peu comme en France. Donc, qui mange à l'école aujourd'hui, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Qui mange chaud à l'école, 2,50 € en plus. Dylan va porter ça chez le directeur. Bon, je vais commencer, et 50, on va faire la date, on va faire la météo. Bon, l'avantage à Belgique, ça doit être comme Rouen, j'ai l'impression. C'est facile, parce qu'il pleut tout le temps. Donc, aujourd'hui, quel genre de pluie on a? Bien, vous savez, le vocabulaire qu'on travaille autour de la pluie, hein? Il y a la drache, l'averse, la tempête, l'orage, la pluie, l'ondée, tout. Donc, tout un vocabulaire. Donc, on a plein d'étiquettes avec des nuages. Et là, l'enfant dit « Non, monsieur ou madame, aujourd'hui, il fait beau. » Il fait pas beau. Il va pleuvoir bientôt. Donc, on met le soleil avec le petit nuage menaçant qui s'en vient noir, 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 parce que vous savez que ça va pas durer toute la journée, ce soleil-là. Bon, il est 8h55. Et je commence ma journée en disant, bon, les amis, aujourd'hui, je suis au genou caillou hibou. Ce qui s'est passé, c'est que le deuxième prof, lui, est allé en cours de récréation à 8h22. Il a fait Kevin, Dylan, Mohamed, tchic, 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 on rentre en classe. À 8h23, ils étaient en classe. Ils ont fait une remédiation là, et à 8h55, ils retournent en classe comme tout le monde. Ils ont manqué leur routine ce jour-là. Pourquoi ces élèves-là, eux, dans cette classe-là, ce qu'ils s'étaient dit, on va prendre les élèves qui n'ont pas bien compris le contenu essentiel de la veille. C'est-à-dire, la veille, on a eu un nouveau contenu. Un truc un peu plus difficile, on va identifier les élèves les plus en difficulté et systématiquement, tous les matins, on va faire une courte remédiation lors de la routine. Ils n'ont pas manqué de contenu, c'est jamais les mêmes élèves qui sont là. Un élève qui est un élève absent, schlax. Un élève malade, schlax. Un élève qui ne comprend pas. Et finalement, mais nous, c'était des projets de 2 ans. La deuxième année, quand j'allais voir qui était là, c'était rarement mes élèves diagnostiqués. C'était juste des élèves qui ne comprenaient pas. Mais ça, c'est un gros avantage du co-enseignement. C'est offrir le service à tout le monde. Et pas juste aux élèves qui sont intégrés. Parce que des fois, Kevin, mais il comprend bien mathématiques, même pas en français. Mais si le contenu essentiel est en mathématiques, je sais pas ce qu'il ferait dans un groupe de besoins en mathématiques, ainsi de suite. Et des fois, c'est nos plus forts. Tiens, vous, je sais déjà que vous avez compris, mais soit je vous lance dans une tâche autonome tout de suite, tiens, vous appliquez l'exercice, ainsi de suite, dans un projet, vous avez fini plus tôt. Donc, ça permet aussi de dire, mais tiens, cette table-là, et ce service-là d'enseignant supplémentaire, c'est pour tout le monde. Hein? C'est parfois pour des élèves qui ont des projets particuliers, parfois pour les plus faibles, parfois pour les plus forts. En secondaire, en début d'année, il n'y avait pas de table. Je dis, mettez quand même une table, c'est pratique. Mais l'avantage, c'est que, par exemple, j'étais en mathématiques, prévision d'examen, donc une révision, ils font des exercices. Le prof, le maître plus, prend déjà ses 6 élèves. L'autre enseignant prend les autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 6 élèves en difficulté-là ont tous fini les exercices, ont tous préparé l'examen et avaient tous corrigé pendant que les autres n'avaient pas encore fini de corriger. La même journée, dans une autre classe, ils font exactement la même chose. C'était en première secondaire. Description de personnages, hein, au niveau du brainstorming, d'écrire des personnages, puis différentes caractéristiques pour écrire un texte. L'enseignant supplémentaire prend 6 élèves, travaille avec eux, et après 20 minutes, quand l'explication est finie, ils doivent écrire, retournent dans la classe. Donc, après ça, tout le monde est ensemble, les deux profs circulent. Mais ce qui va interpeller, c'est à la fin. Notre petit Dylan, lui, il a un ordinateur pour écrire Dylan. Il ne s'appelle pas Dylan, mais il a un ordinateur, donc ça veut me dire qu'il a des difficultés, puis il a un diagnostic probablement. Mais donc, le prof dit, « Bon, il reste 2 minutes, il faut ranger. » Là, t'as Dylan qui fait, « Non, madame, non, je suis dedans, je vais continuer, madame. » C'est pas normal que cet élève-là dise ça. Et après ça, ça sonne, dit, « Madame, j'ai fini 238 mots. » La consigne, c'était 100 mots. Mais quand tu as ton élève en difficulté qui veut continuer, qui est dedans, qui en veut et qui dépasse l'objectif, mais c'est intéressant. Mais là, ça a été fait avant, ça n'a pas fait en... Ça n'a pas été fait en postvention, c'était fait en prévention. Je vais déjà prendre ces élèves-là à risque, je vais déjà les muscler au niveau de la description de personnage, faire la même activité que l'autre prof, mais pas mal plus interactive, et des enfants qui s'investissent pas mal plus dans la tâche après aussi. Donc, ça peut être fait avant, pendant. Même chose, je me promène en classe, on est deux, il y a des mains qui se lèvent. Là, je me rends compte qu'elle, si je donne la bonne réponse, 2-3 mots, il y a l'éclair dans ses yeux. Puis si je les prends à elle, elle a fait... Bon, il y a des élèves qui ont plus de besoins. Et donc, au fil du temps, ce que je me dis, ben, tiens, ceux qui ne comprennent pas ou qui ont besoin de plus de médiation, plus d'explications, que je leur explique parce qu'ils n'ont quand même pas compris, venez sur la table parce que vous, je dois passer un 10 minutes avec vous. Mais m'asseoir 10 minutes avec vous, je ne pourrais pas. Donc, je vous dis, ben, tiens, les plus gros besoins, venez à la table et les élèves qui ont besoin d'interventions plus rapides, plus fréquentes, plus faciles, ben, vous restez dans le groupe. Donc, ça, c'est improvisé. C'était pas prévu comme ça, mais voilà, j'ai trop de mains levées, j'ai trop d'élèves qui se ressemblent et qui sont en besoin. OK. Et systématiquement, quand l'élève avait démarré, l'éclair de génie apparu dans ses yeux, il retournait à son banc et poursuivait sa tâche. Donc, c'est vraiment un centre de dépannage ponctuel, flexible, qu'on a mis sur place, mais parce que la table est là. Puis parfois, bien, c'était l'enseignant A et parfois, c'est l'enseignant B. Hein, une autre anecdote, une fois, la deuxième année, je rentre dans une classe, dans une école, et là, je vois le prof A, le titulaire, avec 5 élèves à l'extérieur de la classe, en train de faire une activité. Là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de faire ça? Ah, oh, excuse. Non, je sens blague, mais en fait, quand l'enseignant ordinaire devient l'enseignant spécialisé, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'il y a un effacement des rôles. Parce que l'enseignant ordinaire, en fait, il est hyper spécialisé, il les connaît super bien, ses élèves. Kevin, il a 25 heures par semaine. Donc, c'est qui le plus grand spécialiste de Kevin? Mais c'est sa mère. Mais la deuxième, c'est probablement son enseignante. Et donc, d'avoir cette collaboration-là est aussi intéressant. Hein? Donc, ça veut dire, on verra aussi, mais ça demande aussi de redéfinir le rôle de l'enseignant spécialisé et sur quelle base on va le redéfinir. Mais déjà, s'il n'y a pas de pratique spécialisée, c'est ce qu'on disait tantôt. Il n'y a pas de pratique qui fonctionnerait avec Kevin, mais pas avec Alexandre. Comment je me définis si je n'ai pas une pratique efficace pour un et pas pour l'autre? Mes pratiques sont universelles, sont efficaces avec tout le monde. Hein? Et je ne dis pas que l'enseignant spécialisé n'a rien inventé. Ils ont inventé énormément de pratiques, mais ce qu'ils inventaient, ça marchait avec les autres. Hein? Moi, j'ai travaillé chez De Crolly pendant des années. De Crolly, c'est un peu le Freinet belge, là. Mais il a inventé son école pour les troubler. Mais finalement, les écoles ordinaires alternatives de Crolly, ça marche encore mieux, en quelque sorte. Hein? Donc, sa pédagogie inventée pour des élèves en difficulté, finalement, fonctionne un peu pour tout le monde. L'enseignement partagé, les deux enseignants enseignent la même chose au même moment, le même contenu. C'est dur à imaginer, mais oui, c'est pour ça qu'il faut attendre quelques semaines, quelques mois avant de le mettre en place. Mais techniquement, les deux ne parlent pas en même temps. Donc, si je fais un time sampling de 5 secondes par 5 secondes, il y en a un qui parle et l'autre écoute. Hein? Mais parce qu'il ne s'interrompt pas. Pour vous donner un exemple concret, l'enseignant 1 commence, on est en CP, bon, en deuxième, donc en CE1. Bonjour les amis, aujourd'hui, chou, genou, caillou, hibou, par exemple, elle parle 5-10 minutes, tu as le prof B qui est en train de faire le tableau derrière. Il marque la synthèse, marque les consignes, souligne, met le matériel. Le prof A, il a fini. Il va distribuer les feuilles. Le prof B continue. Bon, les amis, vous avez vu, regardez le tableau, tac, 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 tac. Elle remédie. Elle explique une deuxième fois un peu autrement, plus rapidement aux élèves. Après ça, les deux circulent entre les bancs. Ils remarquent à la question 3, il y a un problème. Les amis, attention à la question 3. Donc, finalement, c'est un enseignement avec deux corps. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans une famille, finalement. Hein? On cuisine les deux ensemble, on élève les deux ensemble, puis on a des tâches un peu indifférenciées. Voilà. Donc, c'est pouvoir mailler sa pratique. Donc, mais pour ça, il faut bien se connaître et ou avoir un scénario pédagogique très bien écrit. Donc, les néophytes, les nouveaux co-enseignants, quand ils veulent faire un enseignement partagé, ils doivent beaucoup écrire leur scénario. Sinon, bien, c'est un peu comme les artistes qui peuvent improviser facilement. Quand ça fait une année, deux années que je connais ma collègue, j'ai vu les contenus qu'elle donnait, j'ai vu déjà cette pièce-là, je peux intervenir plus facilement. Donc, il faut se laisser du temps pour pouvoir avoir un enseignement partagé. Et si vous voulez le faire un peu, planifiez plus. Quasiment à se dire, là, je parle, là, tu t'es, là, tu fais ça. Donc, à chaque fois, qu'est-ce que je fais pendant que toi, tu fais quelque chose et vice-versa. Mais après quelques mois de co-enseignement un peu intensif, ça devient naturel, finalement, parce qu'on connaît tellement bien l'autre qu'on peut pouvoir intervenir. Bon, littérature, je vais peut-être un peu rapidement là-dessus. En fait, la question, c'est de dire, est-ce que c'est efficace? Hein, parce que ça fait une heure que je vous en parle, puis ça se trouve, ça ne marche pas du tout. Mais ça ne marche pas. Donc, non, non. En fait, il y a une méta-analyse qui a été faite sur les recherches avant 2000. Cette méta-analyse-là, qui était très rigoureuse, donc c'est finalement sur 99 articles, il n'y en a que 6 qui avaient été sélectionnés, montre quand même un effet de taille quand même intéressant dans différents aspects. Par contre, ils avaient appelé à plus de recherches quasi expérimentales, ce qui a été fait après. Et les recherches d'après, en fait, ont tendance à montrer en fait une supériorité du co-enseignement, soit face à la co-intervention externe, soit face aux classes spéciales. Et classes spéciales, c'est soit les classes spéciales parallèles, hein, j'ai un groupe de 8 ans, qu'un groupe de 8 ans, je compare les deux. Ou, au niveau du temps, cette année, vous avez 8 ans, vous êtes tout seul en classe. L'année prochaine, vous êtes à deux en classe. Et on regarde où ils ont le plus progressé, la première année ou la deuxième année. Tout ça, en fait, montre une efficacité plus grande du co-enseignement. Par contre, quand on lit bien les recherches, on voit plein de problèmes au niveau du co-enseignement. Hein, il y a des recherches qui vont montrer qu'il y a des difficultés. Mais quand on regarde bien les recherches, le co-enseignement intensif, ça veut dire sont soit toujours ensemble, soit tous les cours de français ensemble, soit tout ce module-là d'une matière est fait ensemble, c'est là que les recherches sur l'efficacité se font. Et là, on a assez peu de problèmes entre co-enseignants, parce que c'est intensif. Et où on a des problèmes au niveau de la littérature, c'est quand c'est dispersé, ponctuel. Hein, une fois de temps en temps, je vais en CP, une fois en français, une fois en deuxième en C1, après ça, je vais en histoire. En fait, j'arrive toujours les mains dans les poches. Je n'ai jamais trop planifié, je ne sais jamais trop quoi faire. Et en fait, c'est quoi? Un enseigne, l'autre observe ou aide. C'est sûr qu'on va faire ça dans cette configuration-là. Et là, ça devient un peu insatisfaisant aussi. Et généralement, les recherches sur le co-enseignement qui montrent, une efficacité, mais soulignent assez peu de problèmes parce que c'est soit intensif et ou stratégique. Hein? Stratégique, c'est-à-dire dans un domaine bien particulier, ou c'est un mi-temps, un temps plein qui est appliqué au co-enseignement. Mais on le verra, il faut des ressources pour ce faire, mais on verra que les ressources existent. Je vais parler rapidement d'une recherche d'un chercheur que je connais bien, Tremblay. Il est en train de faire la même maintenant en Belgique. Et en fait, on a comparé un groupe classe spéciale, en fait 13 groupes classe spéciale avec 12 groupes inclusifs co-enseignement. Les mêmes élèves dans les deux groupes, hein, le même type d'élèves, la même dépense en termes de ressources. Hein, il y avait environ 6 élèves intégrés dans une classe de CP. Puis dans les classes spécialisées, mais il y avait entre 4 et 12 élèves, mais les élèves recevaient aussi de l'orthophonie, jusqu'à 4 fois par semaine. Donc, on dépensait les mêmes choses, mais on le dépensait autrement, en quelque sorte. Hein, parce que pour le ministère de l'Éducation, il ne fallait pas que ça coûte de l'argent, donc ça n'a rien coûté. Donc, c'était notre premier paramètre. Donc, on a vu si les élèves, finalement, ont plus progressé dans une classe de co-enseignement en lecture, écriture, mathématiques que dans une classe spécialisée, individualisée, en quelque sorte. Quand les flèches montent, c'est que ça marchait. Donc, en français, première année, ça marchait quand même assez bien, c'est sur 20 points, donc une différence quand même qui était nulle au départ, c'est normal, les élèves, on les a pris au même niveau de départ dans les deux groupes, mais une différence de 3,5 sur 20 ensuite, et en mathématiques, on voit qu'il y a quand même un effet, mais un peu plus faible. La deuxième année, on voit une accentuation. Mon hypothèse, c'est que les enseignants, en fait, sont devenus meilleurs. C'est de la première année. Moi, je connaissais rien quand j'ai fait ça, en fait, là. Tu sais, au départ, quand j'ai fait du cours, la première, je n'étais pas spécialisé en co-enseignement, je faisais ma thèse là-dessus. Hein? Je pense que les enseignants ont découvert des pratiques et se sont améliorés aussi, donc ont régularisé certaines pratiques. En Belgique, c'est peut-être aussi le même cas en France, les enseignants en Belge, ils tiennent beaucoup à leur groupe, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'élève soit trop en retard. Il ne faut pas que l'élève soit trop en retard. C'est leurs trois principes de base. Et ça veut dire, s'il est trop en retard, il faut le faire doubler. Parce que ça, c'est important, puis c'est pour son bien-être, le faire doubler. C'est très important de le faire doubler s'il est trop en retard. Hein? Donc, on devait travailler là-dessus. Donc, on devait quand même contrôler cet aspect-là, parce qu'il pouvait me dire, OK, il est peut-être mieux dans ma classe de co-enseignement qu'en classe spéciale, mais il n'est peut-être pas suffisamment bon pour rester dans ma classe. Vous voyez? Il progresse plus ici que là, mais pas assez. C'est un peu ça qu'on a voulu vérifier. Là, ici, mais ça montre, si ça montre, c'est que nos élèves réguliers sont meilleurs. Et l'écart s'accentue. Et la première année, c'est exactement ça qu'on voit. Mes élèves réguliers vont plus vite que mes élèves inclus. Hein, que mes élèves qui ont des difficultés avec le co-enseignement. Embêtant, mais c'était la première année. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième. Donc, on voit que les effets se stabilisent en mathématiques et l'écart se rétrécit en lecture-écriture. Mon hypothèse, c'est que les enseignants sont devenus meilleurs co-enseignants. La première année, ou les premiers 6 mois, ils se découvraient un l'autre. Hein? La deuxième année, ils ont pu régulariser certaines pratiques aussi. Donc, on voit aussi que le co-enseignement permet de réduire les écarts dans la classe. C'est pas accentuer les écarts, c'est plutôt les réduire. Donc, ça veut dire que mes élèves en troublés ont patiné plus vite. Hein, si je prends un exemple canadien, ont patiné plus vite que mes élèves non troublés. C'est intéressant. Donc, l'hétérogénéité se diminue ici. On a aussi fait un test de Wilcoxon. En fait, avant, c'était des tests de moyenne. Ici, c'était un test statistique plus sur le rang, les individus. Et, par exemple, moi, j'avais 350 élèves dans ma cohorte. J'avais les élèves réguliers, les élèves inclus, puis les élèves en enseignement spécialisé. Si Kevin commence en septembre à la 342e place, qui est très mauvais par rapport aux autres, mais s'il finit à la 220e place, c'est qu'il a beaucoup progressé. Donc, c'était un peu la progression, la régression de rang. C'est comme si tout le monde est en compétition avec tout le monde ici. Et on voit qu'en inclusion, bien, les élèves montent de rang. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à, je suis parti d'une position, en fin d'expérience, je serai meilleur, j'aurais progressé, je serais devenu un meilleur compteur dans le classement des compteurs, si on veut. Par contre, en enseignement spécialisé, la régression est constante et partout est très forte. C'est-à-dire, l'inclusion co-enseignante marche, mais la classe spéciale ne fonctionne vraiment, vraiment pas. En fait, c'était facile de battre la classe spéciale, parce qu'elle fonctionne vraiment très mal. Hein? Alors que le ratio, j'avais des classes de 4 élèves en classe spéciale. Des fois, j'allais faire des observations, il n'y avait qu'un seul élève en classe, parce que les deux autres étaient en orthophonie et l'autre était en psychologie. Mais on va penser que quand il y a un seul élève en classe, ça va être un enseignement très individualisé. Eh bien, non. Bon, Logan, c'était Logan. Voilà, fait la feuille que les autres ont fait pendant qu'il n'était pas là, parce que Logan, il lui arrivait d'une prise en charge. Et donc, Logan travaille pendant 5-10 minutes, puis là, le prof, il est là, il s'ennuie, le prof, je le vois, là. Puis moi, j'ai rien observé, c'est chiant. Là, le prof, il fait, « Alors, Logan, ça a été chez mamie cette fin de semaine. Hein? Tu t'es bien amusé. Et t'es allé voir tes copains. Et grand-maman, elle est allée sortir de l'hôpital. » En fait, elle a passé son temps à discuter pendant une demi-heure de Logan. Elle n'enseignait pas. Donc, c'est pas parce que j'ai du un pour un que j'enseigne ici, c'est une anecdote, hein? Mais c'était pas finalement, ce qui m'a interpellé, c'est qu'un enseignement spécialisé, c'est un enseignement ordinaire, plus lent. Il n'y avait rien de vraiment spécialisé. Et quand on observait le comportement des gens, ce qui était intéressant, c'est pas les résultats ici, c'est que l'enseignant en co-enseignement, l'enseignant régulier, passait plus de temps en soutien individuel que l'enseignant spécialisé dans la classe spéciale, alors qu'ils étaient en inclusion. Donc, c'est pas parce que je suis dans une classe avec moins d'élèves que je vais finalement transformer mes pratiques. On voit que ce qui est plus transformateur, c'est pas tellement le ratio, c'est plus la collaboration qui est plus transformative. Vous avez les avantages, mais tout ça, je vous l'ai déjà dit. Et j'avais préparé trop. Pour que ça fonctionne, le co-enseignement, il reste 5 minutes. Il faut que les gens soient volontaires. On ne co-enseignera pas avec des gens non volontaires. Ça veut dire qu'il faut que les gens, si je prends une analogie, il faut que les gens soient célibataires. Et c'est pas parce que tu es célibataire que tu vas te matcher avec n'importe qui. Donc, il faut que tu sois célibataire et compatible. Hein? Donc, il faut avoir ces deux aspects-là pour former un couple. Donc, une parcellation volontaire, mais en même temps, une compatibilité. Il faut une égalité, comme dans tout couple. Avoir une hiérarchie, avoir un meilleur, avoir un mieux payé, avoir un ci, un ça. Bon, mieux payé, ça dépend toujours. Des fois, c'est des tracts. J'ai 20 ans d'expérience, je suis mieux payé qu'un jeune. Hein? Donc, ben, en même temps, il est pas mal dans la même grille. C'est sûr que si un gagne trois fois mon salaire, c'est un peu différent. Donc, moi, quand je travaille avec des psychologues, ben, on n'avait pas le même salaire, le psychologue et moi, à l'époque. Hein? Donc, avoir une égalité, des buts communs, ça, c'est très, très, très important. Viser la même chose. Si on vise la même chose, on peut prendre des chemins différents, mais viser la même chose. Responsabilité partagée, partage des expertises, imputabilité partagée. Tout le monde est responsable de tout le monde. Dans quoi on est le meilleur, mais c'est là-dedans qu'on va jouer. Si tu es super bon à la défense au foot, pourquoi tu irais garder les buts? Reste à la défense. Et si tu es Lionel Messi, tu es un buteur, mais la meilleure place où te mettre, c'est à la pointe. Donc voilà, travaillons sur les expertises, puis des fois, ben, les deux sont mauvais. Ça arrive, hein? Ben, moi, le parti de passer qu'à avoir, je déteste, je suis pas bon. Et moi non plus. Hey, quelle bonne occasion de se remettre en question puis de trouver en fait une activité là, hein, plaisante et intéressante. L'intensité de la structure. Un co-enseignement fonctionne bien quand c'est intensif et ou structuré. C'est-à-dire une régularité. Je viens pas le mardi à 10 heures, je viens pour tous les cours de lecture-compréhension. Parce qu'il y a un besoin dans la classe en lecture-compréhension. Je viens à chaque fois en résolution de problèmes. Je viens tous les jours pour la lecture-fluidité. Structuré parce que ça rend la planification facile, prévisible. Qu'est-ce qu'on fait demain? Bien, la suite d'aujourd'hui. C'est facile, ça. Par contre, quand ça change à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait demain? Attends un peu, il faut que je t'explique. Là, ça prend du temps. Hein? Soit ça prend du temps, soit qu'on n'explique pas, et finalement, la personne improvise. Donc, pouvoir structurer, intensifier. Les besoins qu'on remarque chez les enseignants, soutien administratif, la direction, l'inspection, je vois des inspecteurs, très important. Trouver les gens, la petite main sur l'épaule, parce que les gens qui font du co-enseignement dans un milieu scolaire sont les seuls, souvent les seuls. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de modèle, ils ne savent pas s'ils font bien ou mal. Et des fois, c'est bien d'avoir le chef d'établissement ou l'inspecteur qui vient dire « Continuez, c'est beau ce que vous faites, bravo, hey, je suis impressionné ». Comme quand on est en maternelle avec un enfant qui nous montre son dessin avec un bonhomme qui a trois doigts. On lui dit pas, c'est moche, arrête de dessiner, c'est pas là-dedans que tu dois aller. Non, comme pédagogue, on dit, oh, quel beau dessin. Puis là, après ça, on peut lui dire, ben tiens, ce serait peut-être intéressant de mettre cinq doigts. Hein? Mais d'abord, commencer par un esprit d'ouverture et de reconnaissance, et ainsi de suite. Donc, parfois, c'est d'avoir ce soutien-là qui est affectif et ou professionnel. Aménager l'horaire, trouver le local. Hein, je veux co-enseigner à deux en fusionnant nos classes. Puis la classe d'en bas est très grande. Ah, mais la classe d'en bas, c'est le prof qui a 40 ans de carrière qui reste là, puis c'est sa classe. Mais parfois, il faut la faire bouger, la madame. Si c'est pour un projet, si on a des valeurs puis une idée, c'est pour faire un co-enseignement dans une classe qui a des besoins spécifiques, on va intervenir un peu plus, puis on a besoin, OK. Bon, c'est juste pour prendre sa classe, pour lui voler sa classe, c'est autre chose. Voilà. Avoir du temps de préparation. Surtout au début. Au début, on a besoin de temps. Après, on a aussi besoin de temps, mais ça se voit moins. Parce qu'au début, on a besoin de temps très formel. On se rencontre à 4 heures, on se rencontre le temps de midi, on prend des... Quand on se connaît, bien, comme dans un couple, on va voir ce qu'on mange, on discute comme ça, on trouve vite la solution, on va manger au restaurant. On n'a pas envie de cuisiner, etc. Mais voilà, plus qu'on se connaît, plus c'est prévisible, moins que le temps de planification est formel, il devient de plus en plus informel. Moi, j'avais mes co-enseignantes en Belgique, ils étaient temps plein ensemble. Donc, les mêmes heures d'éducation physique, les mêmes heures de religion morale, le dîner, les classes vertes ensemble. J'en avais deux qui covoituraient le matin. Ils font leur surveillance de récréation ensemble. Bien, ils planifiaient tout le temps, ils planifiaient jamais. Ils étaient toujours en train de parler d'école, mais ils écrivaient jamais rien parce qu'ils se parlaient. Ah, demain, il ne faut pas oublier. Ah, on préfère ça. Hey, voilà. Comme un prophète, finalement, avec soi-même. C'est juste là. Ça permet aussi de développer, on le verra, mais de développer la pensée réflexive. Après chaque activité à deux, je parle de mon activité. Puis j'en parle à un collègue qui est actant, qui est agissant pour demain. Donc, on se remet systématiquement en question. Puis le but, c'est de s'améliorer. Et ça tombe bien, ma ressource est là pour m'améliorer. Demain, ah, ben moi, j'ai une idée, je vais pouvoir le faire. Voilà, c'est intéressant. Formation, il faut se former au co-enseignement. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est peu connu, qu'on n'a pas la culture. Donc, avoir un aspect formation, mais formation, ce n'est pas toujours un PowerPoint. Beaucoup de formation, c'est de l'accompagnement. Moi, ce que je fais avec mes enseignants, c'est que je vais en classe, on les observe. Soit des fois, on planifie ensemble, soit des fois, on feedback ensemble, mais avoir cet accompagnement-là un peu plus proximal et pas juste donner des injonctions en disant « faites ci, faites ça, puis ça », c'est dans un premier temps, oui. Et après ça, dans un deuxième temps, c'est vraiment rentrer en classe pour savoir comment ça fonctionne pour pouvoir aider ça. Des gens compatibles, comme je disais, il ne faut pas juste être volontaire, il faut être compatible. Et donc, le co-enseignement, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Son meilleur ami n'est pas toujours son meilleur co-enseignant. Moi, j'ai eu des meilleurs amis qui sont devenus des meilleurs amis, mais ils ont arrêté de co-enseigner pour le rester meilleurs amis. Hein? Puis dans d'autres cas, ils co-enseignent tout. Puis j'ai des gens qui ne se connaissaient pas, ni Dave, ni Dadan, le 1er septembre, et le 30 juin, ils pleuraient parce qu'ils devaient se quitter. Hein? Parce que c'est quand même une relation un petit peu fusionnelle. Ça demande un mariage, en quelque sorte, le co-enseignement. C'est un mariage pédagogique, mais aussi affectif. Hein? C'est s'entendre travailler avec quelqu'un comme ça, de façon si structurée. Oui, on est des pros, puis on doit quand même faire abstraction de certaines choses, mais c'est sûr que quand on travaille avec des collègues, et moi, quand je vais voir mes écoles, j'ai un indicateur non-verbal en partant. Quand je rencontre les enseignants, c'est le sourire. On le voit assez vite, les couples qui vont bien. Et donc, déjà, avoir un sourire sur les trucs, les enseignants qui en parlent, bien, c'est... Voilà. Puis quand des fois, ça fait un peu plus la gueule, mais là, on voit que le mariage pose problème, c'est un peu plus compliqué, donc des fois, le conseiller matrimonial doit intervenir un peu plus. Pour un peu régler les bidons, c'était le cas il y a la semaine passée dans le Nord, mais la solution, c'est de dire, mais divisez-vous, arrêtez de vouloir tout faire ensemble. C'est comme dire, tu rencontres ta femme hier à Las Vegas, t'es un peu sous, tu te maries et tu vis ensemble directement, donc elle envahit ton esprit. Non, dans une vraie vie, tu rencontres la fille le soir, vous allez au cinéma, tu l'invites chez toi une fois ou deux, après quelques mois, elle a peut-être un tiroir. Et après quelques années, là, elle te donne la clé. Puis après ça, bien, finalement, vous achetez un appartement ensemble. Mais ça prend du temps, ça. Mais le co-enseignement, c'est la même chose. Il faut se donner du temps. Hein? Et pas essayer de tout partager dès le départ. Et je dis souvent aussi, bien, moi, je suis marié, mais je suis pas avec ma femme aujourd'hui. Je suis à Rouen, elle est à Québec. Je suis quand même marié. Et donc, le co-enseignement, c'est aussi ça. C'est pas parce qu'on n'est pas toujours à deux qu'on n'est pas nécessairement un couple aussi. Donc, pouvoir se diviser les élèves dans deux locaux séparés, si on a le même objectif, c'est très bien. Si on a des objectifs différents, mais c'est comme, oh, pour autre chose. Je termine là-dessus. Donc, ça demande de redéfinir le rôle de l'enseignant spécialisé. Hein, chez nous, on dit orthopédagogue. Ortho, ça veut dire correct, correctif, correcteur. Mais avant, l'enseignant spécialisé, encore aujourd'hui, est un peu considéré comme ça. C'est celui qui fait de la postvention, qui intervient après un diagnostic. Il intervient sur l'élève. C'est lui qui a un problème. Hein, c'est l'élève qui a un problème, c'est pas l'enseignant. Hein, il était désigné pour ça. Et très souvent, le modèle dominant, ça va être la co-intervention. Ça va être « je prends l'élève ». Dans une autre vision de l'enseignant spécialisé, bien, c'est peut-être un enseignant spécialisé, comme nous, c'est orthopédagogue. Ortho, ça veut dire correct, mais ça veut aussi dire bon. Mais un bon pédagogue, un meilleur pédagogue. Et quand on a la formation du KPI en France, mais c'est exactement ça. C'est des enseignants qui se surforment, qui se forment en plus, mais qui restent quand même des enseignants. On ne forme pas un corps de métier différent. On forme des enseignants réguliers qui deviennent extraordinaires. Hein? Ordinaires qui deviennent extraordinaires. Mais c'est un modèle que moi, je privilégie parce que l'idée n'est pas tellement d'avoir des rôles extrêmement découpés au couteau. Toi, tu fais ça. C'est plus avoir un partage. Et souvent, mais comme dans un couple, c'est pas dire tout est blanc, tout est noir. Toi, tu fais ça. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Et quand on regarde le co-enseignement, c'est des nuances de gris. C'est 50 shades of gray, en fait, le co-enseignement. C'est-à-dire, la discipline, les deux la font. Il y en a un qui en fait un peu plus. Le soutien individuel, les deux le font. Un le fait un peu plus. L'enseignement collectif, tout le monde le fait. Il y en a un qui le fait un peu plus. Comme dans un couple, moi, je me coupe un peu plus de ci, de ça, de la cuisine, de ça, et ma femme fait un peu plus certaines choses, mais les tâches sont partagées, et si elle est absente, je sais tout prendre en charge, et vice-versa aussi. Ouais, c'était presque ça, mais on se quittait là-dessus. Oui, c'est fini. Voilà. Mais on se quittait sur le changement de paradigme. Hein. Et donc, c'était l'idée de dire mais la conception existante qui était insatisfaisante, la conception alternative clairement définie, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, j'espère que ça a été clairement défini. Le caractère praticable, bien oui, le co-enseignement, c'est praticable. C'est des choses qui se font dans les pays anglo-saxons, ça se fait en Belgique, alors qu'au départ, on me disait, c'est inimaginable, jamais ça sera possible en Belgique, mais oui. Et quand j'étais jeune doctorant puis que je présentais mes résultats en France, les Français me disaient « OK, pour la Belgique, c'est bon, mais en France, ça serait inimaginable. » Ben, il y a eu un président qui s'appelait François Hollande qui a fait les maîtres plus. Et tout à coup, dans plein d'écoles, il y avait du co-enseignement demain matin. Et maintenant, le président baisse le ratio. Et dans beaucoup d'écoles, il y a aussi du co-enseignement. Donc, finalement, ce qui était inimaginable avant, mais le devient un peu plus imaginable maintenant. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est le caractère fécond. C'est que le co-enseignement, ce que je disais, c'est très intéressant au niveau pédagogique. Ça permet de on voit les enseignants qui peuvent différencier, qui sont en condition de différenciation. C'est pas une obligation, mais on les voit en condition. Et on découvre des éléments pédagogiques, de l'innovation, de la créativité pédagogique, qu'on voit peut-être moins souvent en classe régulière. Voilà. Merci beaucoup.